إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, comme cela a été annoncé, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette conférence au sujet des règles de l'Aïd ainsi que des règles du sacrifice. Comme vous le savez, nous vivons actuellement des jours qui sont les meilleurs jours de l'année, des jours durant lesquels les œuvres pieuses sont les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus pures auprès d'Allah, les plus méritoires et les plus immenses en termes de récompense, comme cela est venu dans différents hadiths de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces jours sont donc les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah, dont la première moitié est déjà passée, car nous sommes aujourd'hui le 5 de Dhul-Hijjah. Donc celui parmi nous qui a été bienfaisant, qui a redoublé d'efforts durant ses jours passés, alors qu'il implore Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de lui ses œuvres et de lui faciliter afin qu'il puisse persévérer dans ses efforts jusqu'à la fin de ses 10 jours ainsi que tout au long de sa vie. Et celui parmi nous qui a été négligent ou qui a eu des manquements, alors qu'il sache qu'il n'est pas trop tard pour se rattraper. Alhamdulillah, il reste encore 5 jours devant toi qui sont une opportunité immense pour te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala par la multiplication des bonnes œuvres. D'autant plus qu'il y a parmi ces 5 jours, 2 jours immenses qui sont les plus importants de ces 10 jours. Tout d'abord, le jour de Arafat, qui est le 9e jour de Dhul-Hijjah, durant lequel il est fortement recommandé de jeûner pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. En effet, l'imam muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'espère d'Allah que le jeûne du jour de Arafat expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. C'est-à-dire qu'il expie les péchés de 2 années pour celui qui le jeûne. Tu vois donc que ceci est un mérite immense qui ne doit pas nous échapper. Et en ce jour, le jour de Arafat, est un jour durant lequel il est légiféré pour nous de multiplier les invocations. Et c'est un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala affranchit du feu de l'enfer nombre de ses serviteurs, que ce soit parmi les pèlerins qui stationnent à Arafat ou autre que parmi les musulmans. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet: c'est pour cela que le lendemain est un jour de fête pour tous les musulmans. En effet, le lendemain de Arafat, le 10e jour de Dhul-Hijjah, c'est la fête du sacrifice et c'est le meilleur et le plus important jour de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour auprès d'Allah est le jour du sacrifice, puis le jour qui le suit. Donc le jour de la fête du sacrifice, c'est un jour immense. C'est un jour qui est meilleur que Eid al-Fitr, que la fête de la rupture du mois de Ramadan. Car durant ce jour, durant la fête du sacrifice, sont réunies 2 adorations parmi les plus nobles et les plus importantes, qui sont la prière et le sacrifice. On va donc voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, quelques questions concernant les règles de la prière de l'Aïd, ainsi que les règles liées au sacrifice. Premièrement, la fête du sacrifice est une des 2 fêtes annuelles des musulmans. Avant l'islam, les polythéistes célébraient certaines fêtes qui ont été annulées par la religion de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a remplacées par meilleures, par 2 fêtes immenses, qui sont la fête de la rupture, Eid al-Fitr, et la fête du sacrifice, Eid al-Adha. Et ces 2 fêtes sont une façon de manifester notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ce après l'accomplissement de 2 adorations immenses. En effet, la fête de la rupture vient après l'accomplissement de l'adoration du jeûne du mois de Ramadan, et la fête du sacrifice vient après l'accomplissement du pèlerinage. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il vit que les gens y avaient 2 jours durant lesquels ils se divertissaient. Il dit alors: Allah vous les a remplacés par des jours meilleurs qu'eux, le jour du sacrifice et le jour de la rupture. Et ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a donc légiféré pour nous de célébrer ces 2 jours afin de manifester notre reconnaissance envers lui, et ce par la prière et l'aumône ou le sacrifice, mais aussi afin de nous divertir de manière permise et de faire entrer la joie dans le cœur de nos familles ainsi que de nos proches et nos enfants. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit « La manifestation de la joie durant les fêtes fait partie des rites de la religion. » Le fait de manifester ta joie durant les fêtes, la fête de la rupture, la fête du sacrifice, ceci fait partie des choses qui sont légiférées dans notre religion. Et il est important de souligner ici un point très important, qui est que ce hadith que l'on a mentionné au sujet des deux fêtes, il nous prouve très clairement que ces deux fêtes sont les seules fêtes légiférées dans notre religion. Donc tout autre événement annuel, que ce soit les anniversaires, ou alors le Maulid, Maulid al-Nabawi, ou encore le jour de l'an, ou autre parmi les choses innovées et qui sont célébrées aujourd'hui par nombre de personnes, alors toutes ces fêtes ne sont pas permises dans notre noble religion. Mais nous avons seulement deux fêtes annuelles, qui sont la fête de la rupture et la fête du sacrifice. La fête du sacrifice, elle commence par une adoration immense qui est la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Kawthar, « Fasalli li rabbika wanhar » Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. On rapporte de Qatada, ainsi que de Ata, et d'autres parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala, qu'ils ont dit au sujet de ce verset, « Accomplis la prière pour ton Seigneur, c'est-à-dire la prière de la fête, et sacrifie, c'est-à-dire sacrifie ton offrande, qui est la bête sacrifiée le jour de la fête. » Et les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah ta'ala, rapportent que le jour de la rupture, ainsi que le jour du sacrifice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait au musalla, c'est-à-dire à l'endroit où il accomplissait la prière de l'Aïd. On voit donc à travers cela que la prière de l'Aïd est une prière légiférée, une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait et qu'il a ordonnée. Toutefois, les gens de science ont divergé concernant son jugement, et ils ont trois avis différents à ce sujet. Certains ont dit que cette prière est une sunna, c'est-à-dire qu'elle est seulement recommandée mais n'est pas obligatoire. Et ils se sont basés sur la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un bédouin l'a interrogé sur l'obligation des cinq prières et lui a dit « Dois-je accomplir autre que celle-ci » c'est-à-dire autre que les cinq prières quotidiennes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Non, sauf si tu le fais volontairement. » Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. D'autres parmi les gens de science ont dit que la prière de l'Aïd est une obligation communautaire, car elle fait partie des rites apparents de l'islam. Et ils ont dit c'est pour cela qu'elle doit être accomplie en commun, dans un endroit désertique. Et ils ont dit que ce qui fait partie des rites apparents est une obligation communautaire, à l'exemple de l'appel à la prière. Donc d'après cet avis, si une partie des musulmans accomplissent la prière de l'Aïd dans une contrée, alors les autres habitants de cette contrée ne sont pas obligés de s'y rendre. Enfin, le troisième avis est l'avis de ceux qui ont dit que c'est une obligation individuelle. Et ce tout d'abord, d'après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset comme vous le venez de l'entendre. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Et accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Mais aussi car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de sortir pour cette prière. Il a même ordonné à celles qui sont indisposées de s'y rendre. De même que les jeunes filles et les femmes pudiques qui habituellement ne sortent pas de leur foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de sortir pour se rendre à cette prière. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapportent de Atiyah radiyallahu ta'ala anha qu'elle a dit à ce sujet « Il nous a été ordonné de faire sortir les jeunes filles et celles indisposées afin qu'elles assistent aux invocations des musulmans et que les femmes indisposées s'écartent du lieu de prière. » On voit donc à travers cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de sortir pour la prière de l'Aïd. Donc ceci nous prouve qu'à plus forte raison cette prière est une obligation pour les hommes. Sheikh al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, nous dit que ceci est l'avis le plus juste, et c'est celui qu'a choisi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. La prière de l'Aïd est donc une obligation individuelle. Concernant les femmes, les gens de science ont mentionné que ce n'est pas une obligation pour elles de s'y rendre. Toutefois, le mieux pour elle est qu'elle sorte pour la prière de l'Aïd, car ceci est la sunna, et c'est ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu dans le hadith. La femme ne doit donc pas se priver de ce bien, mais il lui convient de participer à cette prière, et de participer au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est indisposée, Bien qu'elles ne prient pas, elles se rendent quand même à cette prière en se tenant à l'écart du lieu de prière, même si celle-ci est accomplie dans la mosquée. Elle s'y rend et se met en retrait, afin, comme on a dit, de profiter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que du sermon. Il est donc ordonné aux femmes de sortir pour la prière de l'Aïd, afin d'assister à ce bien et de participer avec les musulmans à la prière et aux invocations. Toutefois, il est très important de souligner ici que lorsque la femme sort, et ce de manière générale, et d'autant plus pour la prière, il est obligatoire pour elle de sortir sans exhiber, c'est-à-dire sans s'embellir et sans se parfumer. Mais elle doit se couvrir de son voile et ne pas être une source de troubles ou de tentations, que ce soit pour elle-même ou pour les autres, car ceci s'oppose à la pudeur et à la piété. Et ce que l'on observe aujourd'hui comme transgression et comme déviance à ce sujet est en partie la conséquence de l'absence de l'autorité des hommes sur les femmes de leur famille, que ce soit les pères, les maris ou les frères. Allah, il est très surprenant aujourd'hui de voir des hommes sans aucune gêne et sans aucune jalousie pour les femmes de leur famille se rendre à la mosquée ou ailleurs, accompagnés de leurs femmes, de leurs filles ou de leurs sœurs, vêtus de manière contraire à la pudeur, wallahu al-musta'an. Il nous incombe donc à tous de craindre Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet, et que chacun prenne ses responsabilités concernant sa propre personne, ainsi que concernant les personnes qui sont sous sa responsabilité. Et la femme doit prendre garde à ce que cette sortie à la mosquée, qui est censée avoir pour objectif de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois prendre garde à ce que cette sortie ne soit pas une cause pour au final t'éloigner de ton Seigneur si tu ne te conformes pas à ce qui t'incombe en termes de vêtements et de pudeur. La deuxième question que l'on va voir concernant la prière d'Al-Aïd est où et quand a lieu cette prière. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait au Musalla pour la prière des deux fêtes. Il est donc légiféré que cette prière ait lieu en plein air, afin que les musulmans puissent se réunir, se rencontrer et manifester ainsi ouvertement cette prière, car, comme on a dit, elle fait partie des rites apparents de notre religion. Et si cela n'est pas possible, qu'il n'y a pas de lieu où se réunir pour cette prière, alors il n'y a pas de mal, en cas de besoin, à l'accomplir à la mosquée, comme c'est le cas aujourd'hui dans nombre de pays. Et le temps de la prière de l'Aïd est celui de la prière de la matinée, Salat al-Duha. Il commence après le Shuruq, au moment où le soleil se lève, de la distance d'une lance, c'est-à-dire environ une vingtaine de minutes après le Shuruq, et il s'étend jusqu'au zénith, c'est-à-dire une dizaine de minutes avant l'heure du Dhuhr, approximativement. Toutefois, la sunna est d'accomplir la prière de Eid al-Adha dès l'entrée du temps, et de retarder la prière de Eid al-Fitr, la fête de la rupture, quelque peu après cela, et ce d'après ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. En effet, il accomplissait la prière de la fête du sacrifice lorsque le soleil se levait de la distance d'une lance, c'est-à-dire dès l'entrée de son temps, et la prière de Eid al-Fitr, la fête de la rupture, lorsqu'il se levait de la distance de deux lances. Et la sagesse en cela est que pour Eid al-Fitr, pour la fête de la rupture, les gens ont besoin de temps afin de pouvoir sortir leur zakat, afin de pouvoir sortir zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture. Donc la prière est accomplie un peu plus tard, afin que les gens aient le temps de sortir cette aumône. Alors que pour la fête du sacrifice, c'est l'inverse. Il est légiféré d'accomplir rapidement le sacrifice. Et ceci n'est possible qu'en accomplissant la prière dès l'entrée de son temps. Car comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, le sacrifice doit impérativement avoir lieu après la prière. La troisième question est comment se déroule cette prière. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont légiférées avant de te rendre à la prière, ainsi que sur ton chemin lorsque tu te rends à la prière. Parmi les choses légiférées avant la prière, il y a les grandes ablutions. Et pour les hommes, il y a le fait de se parfumer et de mettre de beaux vêtements. Et ce d'après ce qui nous est rapporté de certains parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, à l'exemple de Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Ceci est donc une chose recommandée mais qui n'est pas obligatoire. Et j'attire ici l'attention de nos frères sur le fait que lorsque les savants disent qu'il est recommandé que les hommes s'embellissent et que les hommes portent leurs plus beaux vêtements, alors il n'y a pas de doute que ce qui est visé par les plus beaux vêtements, ce sont les vêtements conformes à la législation islamique, à l'exemple du qamis et autres parmi les vêtements des musulmans. Et les beaux vêtements, ce ne sont pas les vêtements qui sont à la mode chez les mécréants et chez les pervers. De la même manière, certaines personnes pensent qu'il fait partie de l'embellissement de se raser la barbe ou l'iyadu billah. Ils transgressent alors l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de laisser pousser la barbe librement. Et il n'y a pas de doute qu'en commettant ce péché, l'homme ne s'embellit pas mais il s'enlaidit en réalité. Car l'embellissement, mon frère,
Il ne se trouve que dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est notre modèle. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre à ce sujet, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous avez en effet dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Et en suivant la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon de tes péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, c'est-à-dire dis, ô Muhammad, adresse-toi aux gens et dis-leur, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc à la manière de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on reconnaît ceux qui aiment réellement Allah et ceux qui aiment réellement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à ceux qui prétendent aimer Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qui en parallèle de cela s'opposent aux ordres d'Allah, s'opposent aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et transgressent leurs interdits, alors il n'y a pas de doute que leur prétention est en partie mensongère et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc comme on a dit, le musulman ne peut s'embellir qu'en suivant la sunna du meilleur des hommes, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois donc t'écarter, mon frère, de la ressemblance aux pervers et de la ressemblance aux mécréants, ainsi que de tous les interdits, comme, par exemple, le port de la soie ou le port de l'or, et autres parmi les choses qui ne sont pas permises. Quant à la femme, on a déjà mentionné qu'il lui incombe de sortir à la prière de l'Aïd sans s'embellir, ni se parfumer, ni s'exhiber, car il lui est ordonné de se couvrir et de se voiler, et il lui est interdit de s'exhiber, de s'embellir ou de se parfumer lorsqu'elle sort, et ce de manière générale. Parmi les choses recommandées avant la prière également, il y a le fait de manger quelques dattes en nombre impair avant de se rendre au musalla. Toutefois, ceci est seulement légiféré lors de la fête de la rupture, pour Eid al-Fitr, le Eid qui a lieu après le mois de Ramadan. Quant à la fête du sacrifice, celle qui aura lieu dans quelques jours, alors la sunna est de ne rien manger jusqu'à avoir sacrifié ta bête, et de commencer par manger de celle-ci, ce qui était possible. Et si cela n'est pas possible, qu'il ne t'est pas possible de commencer par manger de ta bête, alors il n'y a pas de mal à manger avant cela, inshallah ta'ala. Parmi les choses recommandées également, il y a le fait de te rendre à pied au musalla ou à la mosquée. On rapporte de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, il fait partie de la sunnah de sortir à la prière de l'Aïd en marchant. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dit, selon le sens de sa parole, la majorité des gens de science ont recommandé que l'homme se rende à la prière de l'Aïd en marchant, et qu'il ne monte sur aucune monture, sauf s'il a une excuse. C'est-à-dire qu'il est recommandé de te rendre à pied à la mosquée ou au musalla, si cela est possible. Mais si tu n'en es pas capable, et que tu es contraint de t'y rendre via un moyen de transport, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Et la personne ne doit pas s'imposer une chose au-dessus de ses capacités. Par exemple, si la mosquée ou le lieu de prière est éloigné, et que si tu t'y rends à pied, alors tu risques de manquer la prière. Dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que le mieux sera de t'y rendre en voiture ou autre parmi les moyens de transport, et ce afin de ne pas manquer la prière. Et de la même manière, si une personne est contrainte d'emprunter un moyen de transport en raison de la longue distance qui la sépare de la mosquée, ou pour se préserver d'autres méfaits, dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Mais celui qui en a les capacités, alors le mieux pour lui est de s'y rendre à pied. Parmi les choses recommandées également, il y a le fait de prendre au retour un chemin différent que celui que tu as emprunté à l'aller, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu fais donc cela premièrement afin de mettre en pratique cette sunna, mais aussi car cela comporte plusieurs sagesses, comme l'ont mentionné les gens de science, rahimahumullah ta'ala. Parmi ces sagesses, il y a le fait que d'emprunter un chemin différent à l'aller et au retour permet que ce rite soit manifesté plus ouvertement, car les prieurs vont ainsi passer en différents endroits. Cela permet aussi aux musulmans de se rencontrer les uns les autres, de rencontrer des personnes différentes au retour que celles que tu auras rencontrées à l'aller. Et ainsi les musulmans pourront se saluer mutuellement et s'adresser leurs félicitations et ainsi de suite. Enfin, les gens de science ont mentionné parmi les sagesses de cela qu'au jour de la résurrection, ces deux chemins que tu as empruntés témoigneront en ta faveur, inshallah ta'ala. Enfin, parmi les choses recommandées, sur le chemin lorsque tu te rends à la mosquée, ou au musalla, il y a le fait de prononcer le takbir sur le chemin de la prière. Comme on l'a vu, durant les 10 jours de Dhul-Hijjah, il est légiféré de multiplier le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilhamd. Et ainsi de suite parmi les différentes formes de takbir qui sont légiférées. Donc lorsque tu te rends à la mosquée, sur ton chemin, tu prononces le takbir. Une fois que tu es arrivé sur le lieu de prière, alors il faut savoir qu'il n'est pas légiféré d'accomplir une quelconque prière, que ce soit avant ou après la prière de l'Aïd, car il n'y a pas de prière surérogatoire liée à celle-ci. Toutefois, si la prière est accomplie dans la mosquée, qu'elle n'est pas accomplie dans le musalla, alors on accomplira les deux unités, tahiyatul masjid, la prière de salutation de la mosquée, et ce en raison de notre présence dans la mosquée. Mais si la prière a lieu dans un musalla, dans un stade ou autre, alors dans ce cas-là, on s'assiera directement. Et il est légiféré pour celui qui s'assoit en attendant la prière de l'Aïd de multiplier le takbir jusqu'à l'arrivée de l'imam pour la prière. Tu t'assois et tu proclames la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sunna pour les hommes est de faire ce takbir à voix haute. Et de le faire également de façon individuelle, non pas en commun d'une seule voix, comme certaines personnes le font dans certaines mosquées, en faisant le takbir tous ensemble d'une seule voix. Ceci n'est pas légiféré. Mais ce qui est légiféré, c'est que chacun fasse le takbir à haute voix de son côté et de manière individuelle. Quant aux femmes, alors celles-ci prononcent le takbir à voix basse, car il ne leur convient pas d'élever la voix. Une fois l'imam arrivé, on cesse le takbir et celui-ci accomplira la prière de l'Aïd en deux unités à voix haute, sans appel à la prière ni iqama, comme cela est confirmé dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la description de cette prière est comme suit. Dans la première unité, il prononce le takbir de sacralisation pour entrer en prière. Après celui-ci, on prononce l'invocation d'ouverture. Puis, il prononce 6 takbirs pour lesquels il est recommandé de lever les mains. Donc cela fera un total de 7 takbirs dans la première unité. Le takbir de la sacralisation, puis 6 takbirs supplémentaires. Ensuite, il récite surat al-Fatiha, suivi d'une autre surat. Bien sûr, seul l'imam récite la seconde surat. Celui qui prie derrière l'imam, comme pour les autres prières, il ne récite que la Fatiha. Et il est recommandé à l'imam de réciter après surat al-Fatiha, surat al-A'la ou surat Qaf, et ce dans la première unité. Ensuite, il termine cette unité de prière comme une autre prière. Il se relève ensuite pour la deuxième unité en faisant le takbir en se relevant. Une fois debout, il va prononcer encore 5 takbirs supplémentaires, toujours en levant les mains. Donc il fait le takbir en se relevant, et une fois debout, il rajoute 5 takbirs. Après cela, il récite surat al-Fatiha suivi d'une autre surat. Si dans la première unité il a récité surat al-A'la, il a alors recommandé de réciter dans la seconde surat al-Ghashir. Et s'il a récité surat Qaf dans la première unité, il a alors recommandé de réciter dans la seconde unité surat al-Qamar. Et il est permis de réciter autre que cela parmi les surats du Coran. Et même s'il ne récite que surat al-Fatiha, la prière est valide incha'Allah ta'ala. Toutefois, la sunna est de réciter les surats que l'on vient de mentionner. Après cela, il termine cette prière de la même manière que les autres prières. Une fois la prière terminée, l'imam va se lever et prononcer un ou deux sermons. Et il est seulement recommandé d'assister à ce sermon, mais ce n'est pas une obligation. Donc celui qui le souhaite, il lui est permis de se lever et de partir. Toutefois, il lui incombe de le faire de manière convenable, de ne pas perturber le déroulement du sermon, de sortir en silence et s'il souhaite discuter avec ses proches ou ses amis, de le faire à l'écart du lieu de prière en dehors de la mosquée. Après cela, une fois les gens ayant prié, une fois le sermon terminé, il est permis aux musulmans de s'adresser des félicitations. Et ces félicitations n'ont pas de formule spécifique, mais ce que les gens se sont habitués de prononcer est permis tant que cela ne comporte pas de péché, comme le fait de se dire « Taqabbalallahu minna wa minkum » comme cela est rapporté de certains compagnons. Également comme les gens le disent aujourd'hui « Aïdoukoum Mubarak »,« Aïdoun Saïd » et ainsi de suite parmi les formules qui sont utilisées par les gens et qui ne comportent pas de péché. Il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah ta'ala. De la même manière qu'il n'y a pas de mal à se serrer les mains et se faire la collade pour se féliciter. Car ceci fait partie des choses ordinaires auxquelles les gens se sont habitués et cela ne fait pas partie des adorations. Les gens ne font pas cela pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Toutefois, j'attire votre attention ici qu'étant donné le contexte actuel, avec la pandémie, les mesures sanitaires qui sont conseillées ainsi de suite, les poignées de main et les accolades sont à proscrire. Comme l'ont mentionné nos savants, appuyant ainsi les consignes données par les autorités sanitaires. Il convient donc aux musulmans d'être attentifs à cela, de ne pas se laisser emporter par la joie du Eid, pour ensuite faire de ce jour de fête une cause de propagation de cette épidémie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et comme on l'a mentionné, il n'y a pas de prière surérogatoire à accomplir après la prière de l'Eid. Et ce, tant que tu es au musalla ou à la mosquée. Toutefois, une fois rentré chez soi, alors, il n'y a pas de mal à prier. Et ce, d'après ce que rapporte l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, au sujet du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait deux unités une fois rentré chez lui. Concernant celui qui a manqué la prière de l'Eid, celui qui a été en retard et qui n'est arrivé qu'une fois la prière terminée, ou celui qui se trouve dans un endroit où la prière de l'Eid n'est pas accomplie, comme c'est encore le cas dans certains pays, où les mosquées sont encore fermées en raison de la pandémie. Alors dans ce cas-là, il est légiféré de faire la prière de l'Eid chez soi, que ce soit seul ou avec sa famille. Et cette prière s'accomplira alors en deux unités, de la même manière que l'on a mentionné. Sauf que la différence est que l'on ne prononcera pas de serment dans cette situation. On se contentera simplement d'accomplir la prière de l'Eid en deux unités, de la manière que l'on a mentionné. Enfin, il est recommandé en ce jour, comme on y a fait allusion en début de conférence, de manifester notre joie. Le jour de l'Eid, ce n'est pas un jour de deuil. Ce n'est pas un jour de conflit ou de tristesse. Mais c'est un jour de fête, durant lequel il est légiféré aux musulmans de manifester sa joie. Tu dois te montrer joyeux et rendre joyeux tes proches, rendre joyeux tes parents, rendre joyeux ton épouse, rendre joyeux tes enfants et ainsi de suite. Tu profites de ces jours pour entretenir tes liens de parenté, ne serait-ce que par téléphone. Et tu profites de ces jours pour rendre les gens de ton foyer heureux. Il n'y a pas de mal à profiter de ces jours dans des divertissements licites, incha'Allah ta'ala. Toutefois, il est important de souligner que la manifestation de la joie et les divertissements en ces jours, ils ne doivent avoir lieu que de façon permise, que de façon licite dans notre religion. Le jour de l'Aïd, ce n'est pas un jour où les péchés deviennent licites. Comme on a dit, c'est un jour durant lequel on manifeste notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette reconnaissance, elle ne peut avoir lieu qu'en se soumettant à sa législation. Celui qui commet des péchés n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons donc être attentifs à cela et ne pas faire de ce jour un jour de désobéissance et de péché, comme le font certaines personnes en écoutant de la musique par exemple, ou alors en se rendant dans des endroits de mixité ou de perversité, wal'iyadu billah. Et de la même manière, le musulman doit prendre garde en ces jours à l'excès au gaspillage, notamment en ce qui concerne la nourriture et la boisson, et donner à chaque chose sa juste mesure. Enfin, pour terminer en ce qui concerne la prière de l'Aïd, concernant la fête du sacrifice, Aïd al-Adha, il faut savoir qu'elle est suivie de 3 jours durant lesquels il est aussi légiféré de manifester sa joie, ainsi que de multiplier les vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les jours de Tashriq, qui sont donc le 11e, le 12e et le 13e jour du mois de Dhul-Hijja, c'est-à-dire les 3 jours qui suivent la fête du Aïd, il dit sallallahu alayhi wa sallam concernant de ces 3 jours, ce sont des jours durant lesquels on mange, on boit et on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que ce sont des jours durant lesquels il est légiféré pour le musulman de se faire plaisir, de réjouir ses proches et de réjouir sa famille, sans oublier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment le takbir, qui comme on l'a mentionné précédemment, continue jusqu'au coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijja. C'est-à-dire le takbir al-mutlaq, celui qui est légiféré à tout moment. Il est encore légiféré le jour de l'Aïd, ainsi que les 3 jours qui suivent, jusqu'au coucher du soleil du 13e jour, de multiplier le takbir, de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également légiféré ce qu'on appelle le takbir al-muqayyad, qui commence à la prière du Fajr du jour de Arafat, et qui termine à la prière de l'Asr du 13e jour de Dhul-Hijja. Et celui-ci est celui qui a lieu après l'accomplissement des prières obligatoires. C'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé ta prière obligatoire, tu implores 3 fois le pardon d'Allah, Astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Puis ensuite, tu proclames la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, tu reprends les adhkars légiférés après la prière. Ceci était donc un résumé des règles essentielles liées à la prière de l'Aïd. Et on va voir maintenant, incha'Allah ta'ala, quelques questions liées au sacrifice. La première question est quels sont le jugement et la sagesse de ce sacrifice? Les gens de science ont mentionné que le sacrifice de l'Aïd est une sunnah confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle-ci est donc fortement recommandée. Par conséquent, il ne convient pas aux musulmans qui en ont les moyens de délaisser ce sacrifice et de se priver de cette récompense immense. Quant à ses sagesses, les gens de science ont mentionné différents points. Premièrement, ce sacrifice est une manière de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le sacrifice est une adoration qui est vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle permet donc à celui qui l'accomplit de se rapprocher de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ » À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Ceci est donc la plus grande sagesse qu'il y a dans ce sacrifice, qui est le fait de te rapprocher de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu suis en cela la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui accomplissait ce sacrifice. Mais tu suis aussi en cela la sunna de notre prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a lui-même accompli un sacrifice. Et ce lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'immoler son fils Ismaïl. Puis lorsqu'ils se sont tous deux soumis à cet ordre, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplaça par une immolation immense. Il accomplit donc un sacrifice. Et celui qui va faire un sacrifice, il est légiféré pour lui de ne rien couper de son corps, ni ongles, ni cheveux, ni poils ou autres. Et ce, dès l'entrée du mois de Dhul-Hijjah. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ta bête soit sacrifiée. Et ce, même si tu ne la sacrifies pas de ta main. Si tu as confié cette tâche à quelqu'un, ou que tu as envoyé de l'argent pour que ton sacrifice ait lieu dans un autre endroit, tu dois attendre que ta bête soit sacrifiée avant de pouvoir te couper les cheveux ou les ongles et ainsi de suite. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte à ce sujet d'après Salama radiyallahu ta'ala anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah entrent et que la personne possède une bête qu'elle veut sacrifier, alors qu'elle ne se coupe ni cheveux ni ongles. Et dans une autre version, qu'il ne touche rien de ses cheveux ni de sa peau. Ceci est donc obligatoire, comme on a dit, pour le propriétaire du sacrifice, même s'il a confié la tâche à quelqu'un et qu'il ne le fait pas de sa main. Toutefois, cela n'est pas obligatoire pour les gens de son foyer, comme sa femme et ses enfants. Mais c'est seulement obligatoire pour le propriétaire du sacrifice. La deuxième question est: quelles sont les bêtes qu'il est légiféré d'immoler pour le sacrifice? Il est venu dans les textes qu'il est légiféré d'immoler le chameau, le bœuf, le bouc et le mouton, et ce parmi les mâles ou les femelles. Et chacun d'eux a des règles spécifiques pour être valide. En ce qui concerne le chameau, il doit impérativement avoir 5 ans ou plus. En ce qui concerne le bœuf, il doit avoir 2 ans ou plus. En ce qui concerne le bouc, il doit avoir 1 an ou plus. Et enfin, en ce qui concerne le mouton, il doit avoir 6 mois ou plus. Ceci est l'âge minimum que doivent avoir les bêtes qui sont sacrifiés pour le Eid. Et le bouc et le mouton, ils sont valides pour l'homme ainsi que pour les gens de son foyer, même s'ils sont nombreux. À partir du moment où des familles vivent dans la même maison, qu'elles partagent la même nourriture, alors un seul sacrifice leur suffit. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu a dit: au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'homme sacrifiait un mouton pour lui et sa famille, puis ils en mangeaient et en offraient. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, rahimahum Allah ta'ala. Donc, une seule bête par foyer suffit. Mais si au sein du foyer, d'autres personnes ont les moyens et souhaitent faire un sacrifice, par exemple, un homme qui vit encore avec ses parents et qui a de l'argent, et qui souhaite faire un sacrifice, alors cela est légiféré, c'est même une bonne chose, et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. De la même manière, la femme, si elle a les moyens et qu'elle souhaite faire un sacrifice, alors, ceci est une bonne chose et il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala. Toutefois, un seul sacrifice par foyer est suffisant. Quant au chameau et au bœuf, alors il est permis de s'associer à 7 dans leur sacrifice. C'est-à-dire que le chameau ou le bœuf, ils seront valides pour 7 personnes, ainsi que les gens des foyers de ces personnes. Donc chaque personne parmi ces 7 va payer 1/7 du prix du chameau ou du bœuf, et ils vont ensuite partager la viande entre eux. Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que Jabir radiyallahu ta'ala anhu a dit: l'année d'Al-Hudaybiyah, nous avons sacrifié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un chameau pour 7 et une vache pour 7. Et si une question se pose, quel est le meilleur des sacrifices? Est-ce mieux de s'associer dans un chameau une vache à 7 ou alors de sacrifier seul son mouton? Les gens de science ont mentionné que si tu sacrifies une bête entière, c'est-à-dire que tu ne t'associes avec personne, alors le mieux est tout d'abord le chameau. puis le bœuf, puis le mouton, puis le bouc. Mais si tu ne sacrifies qu'un septième d'un chameau ou d'un bœuf, c'est-à-dire que tu t'es associé avec d'autres personnes, alors le mieux est le mouton ou le bouc. Ils sont plus méritoires et meilleurs que le septième d'un chameau ou d'un bœuf. Et le mouton est préférable au bouc. Et le meilleur parmi ces bêtes, de manière générale, sera la plus lourde et la plus chère. Enfin, il est important de savoir que la bête que tu choisis doit impérativement être exempte de certains défauts apparents. D'après le Bara ibn Azib, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quatre bêtes ne sont pas valides pour le sacrifice. La borgne de manière apparente, la malade dont la maladie est apparente, la boiteuse de manière apparente, ainsi que celle excessivement maigre. » Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani, rahimahum Allah ta'ala. Les savants ont donc dit que si la bête souffre d'une maladie ou d'un défaut apparent semblable à ceux mentionnés, alors la bête n'est pas valide pour le sacrifice. Et entre dans cela la bête qui ne donne plus de lait en raison de sa vieillesse. Il est donc impératif que la bête que tu choisis pour sacrifier le jour de l'Eid soit exempte de ses défauts. Et il convient de choisir celle avec la plus belle apparence. La troisième question est: à quel moment est-il légiféré d'immoler la bête que l'on souhaite sacrifier? Il faut savoir qu'il n'est pas permis de sacrifier avant la prière de l'Eid. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala ont rapporté d'après al-Bara ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en ce jour, le jour de la fête du sacrifice, la première chose par laquelle nous commençons est la prière. Puis nous revenons et sacrifions. Quiconque fait cela aura alors atteint notre sunnah. Et quiconque sacrifie avant cela, c'est-à-dire sacrifie avant la prière, ce sera alors uniquement de la viande qu'il présente à sa famille, mais qui ne fait en rien partie des rites. C'est-à-dire que son sacrifice ne sera pas valide, car il ne l'aura pas accompli dans le temps légiféré. Donc le temps légiféré du sacrifice, il commence une fois la prière de l'Aïd accomplie. Et il termine au coucher du soleil du 13e jour de Dhul-Hijjah. Ces 4 jours sont donc des jours durant lesquels le sacrifice est légiféré. Le jour de l'Aïd et les 3 jours de Tashriq. Une fois le soleil couché au 13e jour de Dhul-Hijjah, le temps du sacrifice est terminé. La quatrième question est: comment a lieu le sacrifice? Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapportent d'après Anas radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié de sa main 2 béliers cornus blancs et noirs. Il a dit Bismillah et Allahu Akbar et a posé son pied sur leur flanc. On voit donc à travers ce hadith que la sunna est que le musulman qui en a la possibilité sacrifie sa propre bête de sa main, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne peux pas, ou que tu n'en es pas capable, alors il est permis d'en charger quelqu'un. Toutefois, dans cette situation, le mieux est que tu assistes au sacrifice et que tu sois présent. Parmi les choses légiférées durant le sacrifice, comme vous l'avez entendu dans le hadith, il y a le fait de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'obligation est de dire Bismillah. Et ce qui est dit en plus de cela est seulement recommandé. Donc la sunnah, comme on le voit dans le hadith, c'est de dire Bismillah, Allahu Akbar. Et tu peux aussi ajouter Allahumma hada minka walak. Ou Allah, ceci provient de toi, c'est-à-dire c'est une subsistance que tu m'as accordée. Walaka, et cela est pour toi, c'est-à-dire cela est accompli sincèrement pour toi. Ensuite tu peux dire hada anni wa an ahli bayti. Ceci est mon sacrifice et celui des gens de ma maison. Ou alors si tu sacrifies pour quelqu'un, tu dis hada an fulan, tu prononces son prénom. Et ensuite tu peux dire Allahumma taqabbal minni. Ou Allah, accepte cela de moi. Donc il est possible de dire Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walak, hada anni wa an ahli bayti, Allahumma taqabbal minni. Et ceci est recommandé comme on l'a dit. Mais l'obligation, ce que tu dois impérativement dire avant d'égorger la bête, est Bismillah. Parmi les choses recommandées au moment du sacrifice, il y a le fait de s'orienter vers la Qibla. De s'orienter soi-même vers la Qibla et d'orienter la bête en direction de la Qibla. De même qu'il est fortement recommandé de bien aiguiser sa lame, et ce afin de ne pas faire souffrir la bête. Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a certes prescrit la bienfaisance en toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, alors tuez convenablement. Et lorsque vous égorgez, alors égorgez convenablement. Que chacun aiguise sa lame et qu'il tranquillise sa bête. c'est-à-dire que la lame de ton couteau, elle doit être aiguisée, de sorte à être bien tranchante, et que le sacrifice soit rapide, et que la bête ne souffre pas au moment de l'égorgement. Et qu'il tranquillise sa bête, c'est-à-dire que tu ne dois pas la brusquer, tu ne dois pas la taper au moment de l'égorgement, et tu ne dois pas la retenir longtemps lorsque tu la mets à terre, c'est-à-dire que tu ne la fais pas attendre, mais tu t'empresses de l'égorger. Tu fais cela rapidement afin qu'elle soit apaisée. Et tout ceci fait partie de la bienfaisance et des choses qui nous montrent la noblesse et les bienfaits de la religion de l'islam, qui est une religion qui a ordonné la bienfaisance en toutes choses. Il est donc obligatoire pour le sacrificateur de bien aiguiser sa lame. Et à supposer qu'un homme sacrifie avec une lame mal aiguisée, est-ce que sa bête est licite? La réponse est que sa bête est licite, mais il est dans le péché pour ne pas avoir aiguisé sa lame. Et il est important de souligner que tu ne dois pas aiguiser la lame devant la bête ou les bêtes qui vont être sacrifiées, car ceci peut les effrayer. Et il se peut même que la bête s'enfuit et qu'il soit ensuite difficile pour toi de l'égorger. Donc ceci, l'aiguisement de la lame, cela doit avoir lieu au préalable ou alors à l'abri du regard des bêtes à sacrifier. Enfin, parmi les choses essentielles à savoir, il y a qu'est-ce qu'il faut couper pour que le sacrifice soit valide. La réponse est qu'il faut faire couler le sang en coupant les deux veines jugulaires, qui sont les deux grosses veines qui se trouvent au niveau de la gorge. Et est-il suffisant de couper seulement ces deux veines, ou bien alors est-il obligatoire de tout couper? Car au niveau de la gorge, il y a quatre choses. Il y a les deux veines jugulaires, il y a l'œsophage, qui est le conduit de la nourriture et de la boisson, et il y a le pharynx, qui est le conduit de l'air. Donc est-ce une condition de couper ces quatre choses? Les gens de science ont mentionné que si tu coupes ces quatre choses, alors cela est préférable, et cela est plus sain, incha'Allah ta'ala. Mais si tu coupes seulement les deux veines, alors l'avis le plus juste est que cela est suffisant et que la bête est licite, incha'Allah ta'ala. Par contre, si tu ne coupes que l'œsophage et le pharynx, et que tu ne coupes pas les veines, alors l'avis le plus juste est que la bête est illicite, comme l'a mentionné l'éminent Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Une autre question peut se poser ici. À quel niveau du cou doit-on couper ses veines? Et est-ce une condition de couper au milieu du cou? La réponse est que ce n'est pas une condition, mais l'essentiel est que tu coupes ses veines au niveau du cou, peu importe que ce soit en haut, en bas ou au milieu. Une fois la bête sacrifiée, et une fois découpée, il est légiféré pour le musulman de manger de cette bête, d'en offrir à ses voisins ou à ses proches, et aussi d'en donner en aumône aux pauvres et aux nécessiteux. Et parmi les choses importantes qu'il est nécessaire de souligner ici, il y a le fait qu'il n'est pas permis de payer le sacrificateur ou le boucher en lui donnant de la viande. Car cette viande, c'est quoi? C'est la viande d'une bête que tu as sacrifiée pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle est donc le résultat d'une adoration. Et celle-ci, elle ne peut pas servir de salaire pour le boucher ou pour le sacrificateur. Il est venu dans le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a ordonné de donner la viande et la peau en aumône et de ne pas en donner au boucher. Donc, si tu dois payer quelqu'un pour faire ton sacrifice ou pour découper ta viande, il t'incombe de le payer de ta poche et non pas avec la viande du sacrifice. Enfin, pour terminer, parmi les points les plus importants à mentionner ici, il y a le fait qu'il est obligatoire pour toi de vouer ce sacrifice entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala et d'être sincère dans cette adoration. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre « لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ » Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. La chair de ces bêtes ou leur sang, ce n'est pas cela qui atteint Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Tu dois donc vouer ton sacrifice exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et t'éloigner et prendre garde à tout ce qui s'oppose à la sincérité. Comme le fait, par exemple, d'acheter un gros bélier, une grosse bête à sacrifier, puis ensuite de s'en vanter, soit devant ses proches, devant ses voisins ou devant ses amis, de le prendre en photo, de le montrer aux gens et ainsi de suite. Ou alors, d'informer les gens du prix que tu as payé pour acheter cette bête, qu'il était très cher, et ainsi de suite. Tout cela sont des choses pouvant porter atteinte à ton intention. Le musulman, il doit prendre garde à cela. Tu ne fais pas ce sacrifice pour qu'on en dise de toi que tu as sacrifié une grosse bête. Tu ne fais pas ce sacrifice pour qu'on dise de toi que tu as eu les moyens d'acheter un gros bélier. Tu ne fais pas ce sacrifice pour qu'on en dise de toi que c'est toi qui as sacrifié la plus grosse bête du quartier ou la plus grosse bête de la ville. Mais tu fais ce sacrifice pour te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc purifier ton intention et veiller à vouer cet acte exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les choses répandues, il y a certaines personnes qui en réalité n'ont pas les moyens de faire ce sacrifice. Ils ne peuvent pas. Mais par honte et par peur d'être blâmés par leurs proches ou par les voisins, alors il va acheter une bête pour la sacrifier. Est-ce que son intention est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cela? Il n'y a pas de doute que son intention a été entachée ici par la peur des reproches des gens. Il est donc à craindre que cet acte ne soit pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit sans cesse prendre garde à tout ce qui pourrait porter atteinte à son intention. Et veiller à vouer ce sacrifice, ainsi que l'ensemble de tes œuvres, à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et tu dois sans cesse te rappeler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en me donnant un associé dans celle-ci, alors je le délaisse lui et son association. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous préserver. On a donc terminé pour cette conférence, et j'espère avoir résumé ici les points essentiels liés au Eid et au sacrifice. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accepter nos œuvres et de nous aider à multiplier les bonnes actions durant ces jours restants des 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Ce qui était juste provient d'Allah, et les erreurs et les manquements proviennent de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.